Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h16, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Agnès Pannier-Runacher qui est ministre déléguée chargée de l'industrie.
Bonjour Agnès Pannier-Runacher.
Bonjour Patrick Roger.
Avant de parler industrie, plan de relance et les chiffres, la vidéo quand même sur la rentrée scolaire d'Emmanuel Macron, on l'évoquait tout à l'heure, qui passe mal auprès de certains, le président qui s'est adressé aux élèves et parents d'élèves, puis il a brandi donc le portrait de McFly et Carlito, hein, en réponse aux défis lancés par les youtubeurs, avant de rendre hommage à Samuel Paty. Maladresse, mélange des genres un peu douteux ou pas ?
Alors, je crois qu'il faut quand même remettre en perspective cette coopération avec McFly et Carito. Je rappelle que c'était pour faire une vidéo sur les gestes sanitaires, les gestes barrières, qui a fait plus de 10 millions de vues. Et l'objectif, c'était de toucher les jeunes. Et l'objectif a été atteint. Donc oui, ça me paraît normal de s'appuyer sur ce travail qui a été fait et qui a très bien marché pour sensibiliser les jeunes aux gestes barrières. Et au moment de la rentrée, je crois que tout le monde l'a compris, on est encore dans un moment Covid, et il faut continuer à appuyer sur l'importance des gestes barrières. Et ce petit rappel en clin d'œil, et tout le monde l'a compris, c'est une façon aussi de communiquer très directement.
Il y en a qui sont choqués par ça. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui se disent choqués par ça ?
Je leur dis que il faut rester très simple. On est aujourd'hui dans une rentrée scolaire qui est qui fonctionne en moment de Covid. C'est aussi la première rentrée scolaire que Samuel Paty ne fera pas.
Oui.
Je pense que c'était important de le rappeler. Et voilà, il faut adresser tous les sujets, ceux qui sont sanitaires, comme ceux qui relèvent du régalien et de nos valeurs. Et c'était important que le président de la République le fasse, et le fasse en direction des jeunes.
Oui, mais ce qui ne passe pas très bien.
Porter le message.
Oui, mais ce qui ne passe pas très bien, c'est que quand même, c'est un défi. Ce sont les youtubeurs, McFly et Carlito, et puis qu'on mélange ça avec quand même Samuel Paty, où c'est quand même beaucoup plus terrible, quoi.
Mais parce que nous sommes dans un moment où il y a des sujets qui sont légers et des sujets qui sont plus graves, et que c'est le rôle d'un président de la République de savoir s'adresser à tous et de surtout sensibiliser les jeunes aussi bien aux gestes sanitaires, quelque chose de beaucoup plus grave, qui est une atteinte à nos valeurs, et qui est symbolisé par Samuel Paty.
Alors hier, Agnès Pannier-Runacher à Marseille, Emmanuel Macron a annoncé un plan d'un milliard sur quelques années. Ça vient se rajouter à tout ce qui est mis sur la table et dépensé depuis un an. Nous fêtons aujourd'hui, je crois, les un an justement de l'annonce du plan de relance de 100 milliards. Où est passé cet argent et quels sont les résultats aujourd'hui ?
Alors, 100 milliards d'euros, nous en avons aujourd'hui déployé à peu près 50 milliards. C'était l'objectif que nous nous étions donné avec Bruno Le Maire pour la fin d'année, 50 milliards, et donc nous allons rehausser cet objectif. Cet argent, il est allé dans trois directions. La première direction, la transition écologique énergétique. Très concrètement, des rénovations thermiques, avec une augmentation, par exemple, très importante de la prime Rénov, qui permet à des particuliers de rénover leur appartement, leur maison, et pour limiter leurs dépenses de chauffage. Et donc, c'est utile pour les personnes, c'est également utile pour la planète, on réduit les émissions de CO2. C'est également les primes à la conversion pour les voitures, hein, pour aller vers des voitures moins polluantes. C'est enfin tout le travail sur la décarbonation de l'énergie. Aujourd'hui, avec le nombre de dossiers accompagnés, nous allons pouvoir répondre aux objectifs de la transition carbone. Hein. On doit économiser 3,6 millions de tonnes de CO2.
Oui, Agnès Pannier-Runacher, tout est mis sur la transition énergétique.
Non,
alors si je vous suis,
premier
vous dites
pilier.
Ce sont trois grands points. Moi, je croyais qu'en fait, il y avait une priorité où on avait dit qu'il fallait
trois
relocaliser.
Piliers, j'ai illustré le premier pilier qui est la transition écologique.
Alors,
deuxième pilier pour aller plus vite, la compétitivité. Baisse des impôts de production, 10 milliards d'euros, ça c'est immédiat. Ça va permettre aux entreprises qui produisent en France de plus produire et d'employer et de recruter. Et troisième pilier, c'est la cohésion sociale et c'est notamment tous les investissements dans les compétences, dans la formation, à un moment où on cherche à recruter. Et c'est notamment le plan Un jeune, une solution qui explique qu'aujourd'hui, et je veux le souligner, que notre économie va bien, qu'elle redémarre fort, enfin, elle va aussi bien que possible dans une sortie de crise, et surtout que le taux de chômage que nous avons aujourd'hui est quasiment le même de celui d'entrée de crise, lequel taux de chômage était le plus bas que nous avions eu depuis 10 ans.
Bon, c'est parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aussi qui sont sous perfusion. Bien sûr, avec
alors ça, c'est
le
une
plan,
fausse idée.
Avec le plan du quoi qu'il en coûte. Attendez, dans beaucoup de
non,
secteurs, on le dit.
Non, c'est une fausse idée, Patrick Roger, parce que l'économie, aujourd'hui, elle tourne à 99%.
Ouais.
Et lorsque vous regardez les demandes...
99%.
Et lorsque vous regardez les demandes de soutien, par exemple, du mois de juillet, elles sont 10 fois inférieure à celle d'il y a un an. C'est-à-dire que on a au début soutenu massivement, ce qui était objectif, puisque beaucoup d'activités étaient fermées, et aujourd'hui, mécaniquement, on soutient beaucoup moins d'entreprises, d'où la sortie du quoi qu'il en coûte, et le fait de faire du sur-mesure pour les secteurs qui sont empêchés de travailler, pour des raisons sanitaires, encore une fois, pour des raisons de nature de leur chiffre d'affaires.
Et puis il y a des changements, en fait, dans l'organisation du travail, dans un tas de productions aussi, on va y venir dans un instant. Alors, en échange, quand même, il y a une explosion de la dette, bien sûr, quoi, avec ce quoi qu'il en coûte, et puis l'argent public qui est mis sur la table.
Et
quoi,
ça, hein. c'est le
62%
propre
du PIB, hein, cette année, hein, c'est ça.
C'est le propre des États d'être capables de gérer dans le long terme. Cette dette, il va falloir évidemment la rembourser, mais pas la semaine prochaine. Et c'est la croissance qui
pour
la
rembourse. Pour les générations futures.
Pas nécessairement, parce que c'est notre génération qui est aujourd'hui au travail, c'est notre génération qui doit générer plus de croissance. La croissance, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est 6% de croissance. Cette croissance, elle génère des cotisations sociales, elle génère, elle va permettre de générer de l'impôt sur les sociétés, différents impôts qui vont permettre de rembourser cette dette. C'est ça le projet que nous proposons, et c'est à l'État d'avoir cette vision de long terme et d'être capable d'amortir les crises les plus importantes. Je rappelle que cette crise est la plus importante que nous ayons eu d'un point de vue économique depuis 1929.
Oui, bon, et l'objectif de croissance 6% va être atteint pour cette année ou pas alors ?
Écoutez, c'est ce que semblent indiquer tous les économistes, donc je n'ai pas de raison de ne pas les croire.
Oui, bah non, mais vous êtes à la manœuvre avec Bruno Le Maire, donc vous devez aussi le savoir et le voir et le constater ou pas. Autre urgence, Agnès Pannier-Runacher, les pénuries quand même dans certains secteurs. Là, on est loin de la relance et de la réindustrialisation, de l'automobile aux médicaments. L'Agence nationale de sécurité du médicament, par exemple, signale des ruptures dont il y a des stocks, des problèmes dans les antibiotiques, les anticancéreux, enfin, on ne va pas faire la liste. Qu'est-ce que vous pouvez y faire ?
Alors d'abord, les mesures qui viennent d'être annoncées de mettre en place des stocks de 2 mois sur une série de médicaments, c'est une mesure qui est travaillée depuis 3 ans, hein, puisque je rappelle que c'est Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, qui avait commandé un rapport sur les pénuries de médicaments, qui faisait des recommandations, et c'était Olivier Véran, alors rapporteur du projet de loi de finances de sécurité sociale, qui avait travaillé sur ce dispositif de stock minimal sur des produits qui pouvaient être en rupture.
Donc c'est mis en œuvre.
Non, mais justement, c'est mis en œuvre pour contrer les pénuries. C'est l'objectif. Oui. Deuxième étage de la fusée.
Mais pourquoi il y a une alerte alors ?
C'est pas une alerte, c'est la mise en œuvre de cette mesure,
d'accord,
tout simplement. Donc, c'est nous déroulons un plan pour répondre à des problèmes du pays, mais qui ne sont pas de la semaine dernière. Simplement, nous
bien
agissons
sûr, non, mais ça fait
au lieu de nous agiter. C'est la grande différence avec les gouvernements précédents.
Ouais.
La deuxième chose, c'est que le deuxième étage de la fusée, c'est d'augmenter les productions de médicaments en France. Vous le savez, on l'a dit, on l'a vu pendant cette crise sanitaire, entre 2005 et 2015, La part de marché des productions de médicaments françaises au plan mondial a été divisée par 2. Il faut renverser la vapeur. Et c'est ce que nous faisons. Depuis septembre, vous mentionnez le plan de relance, nous finançons plus d'une centaine de relocalisations de chaînes de production. On a beaucoup parlé du paracétamol, mais il y a d'autres productions, médicaments, vaccins, dispositifs médicaux qui vont être réimplantés en France. Et c'est une autre
qui
façon...
ça commence déjà ou pas alors,
oui, ça commence. Vous avez déjà des projets. Ben, vous prenez les lignes de production de vaccins. Elles sont en place et elles produisent depuis le mois d'avril et le mois de mai, par exemple.
Oui, bon, et des tensions sur certains secteurs, comme par exemple l'automobile, avec des problèmes, des manques de composants. Et donc, certains qui disent qu'ils ne pourront plus livrer les voitures et qu'il va y avoir aussi des ruptures.
Alors, deux types de tensions. Vous avez des tensions sur les matières premières qui semblent en phase de résolution, même si on n'est pas revenu à un équilibre de marché, on va dire, normal. Mais les tensions sont en train de s'apaiser. Et vous avez les semi-conducteurs. Là, on est en train de regarder un changement, le changement du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que la crise sanitaire a eu pour effet d'accélérer l'utilisation de toutes les technologies numériques. Et donc, massivement, tous les pays se sont mis à mettre ces puces qui coûtent rien, hein, la production, qui sont vraiment des tout petits composants, partout, pour améliorer, tout simplement pour permettre le télétravail, donc il fallait avoir du matériel à la maison, dans l'électronique de loisirs, dans les voitures. Et donc ces multiples développements font qu'aujourd'hui, on a un très grand décalage entre la demande et l'offre. Donc ça prend plus de temps pour se rééquilibrer, mais là encore, nous agissons, nous n'avons pas attendu cette impasse pour agir. Je rappelle que nous finançons le plan Nano 2022, qui est un plan destiné à augmenter la production de semi-conducteurs, notamment avec STMicroelectronique, et on investit massivement près de 700 millions d'euros à Crolles, près de Grenoble, et nous avons
hier, vous étiez d'ailleurs
relancé
du côté de Grenoble.
Exactement, chez Aledia, qui est un autre grand start-up industrielle.
C'est donc en cours aussi, face à ça, quoi.
C'est en cours avec des relocalisations.
C'est en cours pour relocaliser et puis ensuite pour pouvoir fabriquer et qu'il n'y ait pas de pénurie dans beaucoup de secteurs.
Voilà, c'est
redouté dans beaucoup de secteurs. Quand vous parlez avec des industriels, ils n'ont pas aussi le discours aussi positif que vous avez quand même ce matin.
Je fais bien la différence entre les différents et en disant que les semi-conducteurs, ça ne va pas se résoudre la semaine prochaine, ça va prendre un peu de temps.
À propos aussi, Agnès Pannier-Runacher, des vaccins, est-ce qu'on a des problèmes avec les doses de vaccins existants d'abord, avant de voir le futur sur les existants. Par exemple, on disait qu'on avait un petit peu trop d'AstraZeneca en France et que certains pays en manquaient, qu'on pourrait éventuellement leur fournir.
Alors, deux choses. D'abord, on a plus de 100 millions de doses qui ont été livrées de vaccins en France. Donc, on est effectivement... on a eu beaucoup de vaccins et on continue à recevoir beaucoup de vaccins. Deuxième chose, on a commencé depuis le mois d'avril les dons de doses de vaccins par le mécanisme COVAX notamment, pour des pays qui en avaient besoin, des pays notamment à bas revenus, à revenus modestes, et notamment de l'AstraZeneca, puisque c'est le premier laboratoire qui a signé l'accord pour permettre ces dons, puisque vous avez des questions de responsabilité. Et nous allons poursuivre ces dons. Je rappelle que c'est le président de la République qui a été le premier dirigeant de l'OCDE.
Combien de dons ?
Plusieurs millions. Aujourd'hui, on a annoncé 10 millions de doses apportées en complément de ce qui a déjà été fait au mécanisme COVAX, ça date de mémoire de la semaine dernière.
D'accord.
Et nous allons continuer. Et sans aucun, limite sur la nature des vaccins, ce qu'il faut en revanche, c'est que les laboratoires passent un accord avec COVAX pour prévoir les moyens de le faire.
Vous savez que chez certains Français qui sont hésitants toujours aussi sur la vaccination, ils attendent le vaccin français Sanofi notamment. Il est prévu pour quand alors ?
Alors, j'ai d'abord envie de dire qu'il ne faut pas attendre le vaccin français.
C'est
de l'intérêt de tous de se vacciner le plus vite possible.
Vous le dites beaucoup au gouvernement, le message est passé. Mais sur Sanofi, c'était...
Sur Sanofi, ils sont en phase 3, c'est-à-dire ils terminent leur essai clinique, comme Valneva d'ailleurs. Ils devraient annoncer leurs résultats dans les prochaines semaines. Et ils devraient lancer leur autorisation de mise sur le marché avec un objectif qui me semble à peu près arriver au même moment pour Valneva et Sanofi, mais ça, nous le verrons dans les prochaines semaines, de fin d'année.
Oui, fin d'année. Oui.
Fin d'année pour la mise à disposition des premières doses.
Oui. Un dernier mot sur la une du Figaro ce matin. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Pourquoi les Français vont devoir travailler davantage ? Parce qu'entre les congés, les retraites, les RTT, et puis aujourd'hui le télétravail qui s'est installé dans les entreprises, les Français devront travailler davantage sur leur lieu de travail. Quelle est votre réaction, vous qui êtes à Bercy ?
Alors, travailler davantage, je le rappelle, dans un pays où les jeunes rentrent tardivement sur les marchés du travail et les seniors en sortent avant la retraite, la première bataille, c'est de faire en sorte que les jeunes rentrent plus vite sur le marché du travail et qu'on soit capable de donner du travail aux seniors jusqu'à leur retraite. Pardon, mais on oublie souvent cet aspect-là absolument essentiel.
On veut reculer l'âge de la retraite alors qu'il n'y a plus de travail pour eux.
Et
bien
donc
souvent,
c'est tout le travail que mène aujourd'hui, Elisabeth Borne, notamment, et les négociations avec les partenaires sociaux sur des sujets comme la pénibilité, qui sont absolument essentiels. Au-delà de ça, avec le télétravail, on a effectivement touché du doigt qu'on pouvait aller assez loin dans le télétravail. On a aussi touché du doigt les limites du télétravail, c'est-à-dire que la dimension sociale du travail, le fait d'être entouré, d'avoir des relations humaines qui vont en plus du travail, est essentiel psychologiquement. Et donc, il faut trouver un juste équilibre.
Oui. Emmanuel Macron a dit d'ailleurs à Marseille, il faudrait travailler un petit peu plus hier, quoi. Et notamment, il s'adressait aux employés municipaux.
Ça, c'est un autre sujet.
Mais il avait raison de dire ça.
C'est un autre sujet. Je crois que, effectivement, l'enjeu, c'est aussi, on parle des 35 heures. En réalité, les salariés du privé sont en moyenne aujourd'hui plutôt à 39 heures. Ils font quelques heures supplémentaires par semaine. C'est ça qui leur permet, notamment dans l'industrie, d'être payés quasiment deux fois le SMIC.
Moins, c'est
donc
ce que vous
c'est
voulez dire,
aussi
quoi.
Un enjeu. Ouais. Ben, vous avez encore des conventions collectives qui sont calées sur 32 heures, ce qui peut surprendre les salariés du privé.
Merci Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée en charge de l'industrie, d'avoir été ce matin au micro de Sud Radio.
Merci
beaucoup.
Et dans
un instant, la revue de presse et le grand débat avec Arlette Chabot et Philippe Bilger. Et le journal de 8h30, à tout de suite.